Le podcast En toute transparence a été imaginé avec l'ADEME.
La transparence, il ne jure que par ça.
En toute transparence. En toute transparence.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de En toute transparence, le podcast qui raconte le succès des entreprises qui intègrent la RSE au cœur de leur offre. Des entreprises sélectionnées grâce à la plateforme Réussir avec un marketing responsable, que j'ai créée avec le soutien de l'ADEME, puis avec l'aide de l'Union des marques, de l'ILEC, de l'ADETEM, de Citeo et de l'école Audencia. Je suis David Garbous et dans ce podcast, je vous partage des initiatives inspirantes en invitant celles et ceux qui les ont rendues possibles. Ils nous expliquent en toute transparence les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ils les ont contournées et nous donnent les clés pour réussir. Mais attention, l'originalité de ce podcast, c'est que j'ai avec moi en studio des étudiants qui, après avoir écouté nos invités, nous diront en fin d'émission comment ils décryptent ce discours de marque avec leurs yeux particulièrement attentifs au sujet d'engagement. Et ils sont nombreux aujourd'hui, puisque nous sommes à l'ESSEC qui nous accueille pour une session spéciale sur les enjeux agroalimentaires.
En toute transparence.
Dans cet épisode de En toute transparence, j'ai le plaisir de recevoir le directeur général de Dossi, Nicolas Facon. Bonjour Nicolas.
Bonjour David.
Alors je suis très heureux de t'accueillir parce que on va parler agriculture, on va parler agroalimentaire et avec un sujet particulièrement emblématique des transformations que ce secteur a commencé à mettre en place et que vous avez adressé. Quelques mots sur Dossi pour commencer. Donc on connaît tous la marque. C'est une marque qu'on trouve majoritairement au rayon conserve de légumes. Vous proposez des légumes en boîte de conserve et en bocal. Mais vous êtes aussi au rayon plat cuisiné, apertisé. Vous êtes présent en surgelé avec des produits bruts comme là aussi encore les haricots verts ou des produits plus préparés comme les émincés d'oignons ou les fameuses poêlées parisiennes et campagnardes. Sur la conserve, vous êtes au coude à coude avec votre confrère Bonduel qui a également été lauréat de la plateforme en 2013. Vous revendiquez chacun à peu près 8% des volumes du marché et sachant que c'est un marché dévolu à, pour près de 2/3 des achats aux marques de distributeurs, donc il y a un beau sujet de différenciation. On va ensemble évoquer la façon dont Dossi a travaillé ce sujet-là. Vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros pour le groupe l'année dernière. Vous vendez 120 boîtes de conserves et bocaux à la minute. Ça fait 2 par seconde si j'ai bien compté. Et ce qu'on sait moins, c'est que derrière cette marque, au même titre que Candia qu'on a reçu ici, il y a un groupe coopératif. Vos actionnaires, ce sont les agriculteurs. Alors Nicolas, toi, tu as connu des systèmes conventionnels avec Danone et puis ce système-là. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça fait comme différence et comment tu t'épanouis dans ce nouveau système?
Alors un groupe coopératif agroalimentaire, c'est une entreprise comme les autres. Elle a des objectifs économiques à réaliser qui sont finalement le garant de sa pérennité. Donc je dirais que c'est un fonctionnement comme tous les autres. Ce qui fait la différence en fait, c'est pour moi, ils sont de l'ordre de deux points. Le premier en fait, c'est le sens. À partir du moment où le conseil d'administration est constitué d'agriculteurs qui sont élus, hein, c'est le principe d'une coopérative, on va rendre des comptes finalement à nos producteurs directement. Et puis au-delà de ça, une coopérative c'est quoi ? Ce sont des agriculteurs qui décident de mettre leurs moyens en commun au service d'un projet collectif, qui est d'une part en fait d'assurer un débouché économique à leur propre production, et puis également d'assurer la pérennité en fait de leur modèle d'exploitation ou leur modèle d'agriculture, même s'il est en transformation. Donc on voit tout de suite qu'on a une dimension assez moyen long terme en fait dans le but de la coopérative. Et puis le deuxième en fait c'est j'ai travaillé finalement dans des groupes comme Danone, comme Heineken, où ce sont de très belles marques, des marques qui sont aussi engagés hein, à leur niveau et sur leur propre champ. Mais je dirais que la différence, c'est que ces marques restent des donneurs d'ordre vis-à-vis du monde agricole, en fait. Et avec tout le respect et la bienveillance que j'ai pour ces marques-là, la différence là, effectivement, c'est qu'on est à la fois industriel, c'est-à-dire transformateur de la matière première, mais également producteur. Et donc on vit au quotidien, en fait, les enjeux liés à l'alimentation, à l'agriculture, au destin à la fois individuel et collectif de nos adhérents et de nos producteurs. Et on travaille finalement au sein de la même entité, chacun a son rôle, mais on travaille au sein de la coopérative et on a un but commun. Donc, on est vraiment au plus près, finalement, à la fois des enjeux alimentaires, agricoles, comme je l'ai dit, des enjeux de filière, puisqu'on est deux des maillons de cette filière-là, et on voit tout de suite que la dimension moyen-long terme, elle vient se rajouter aux enjeux, je dirais, court-termistes que chaque entreprise peut vivre.
En toute transparence.
Alors Nicolas, le jury a retenu Dossi pour une démarche de transformation en profondeur que tu es en train de mener dans cette entreprise. Transformation, c'est cohérent avec ce que tu as dit, des modes de production. Et vous êtes fixé comme objectif d'avoir 100% de vos adhérents qui soient certifiés soit en bio, soit en HVE à la fin de cette année 2023. 100%, c'est pas commun. Il y a beaucoup d'entreprises qui se fixent des objectifs à 2030. Là, c'est 2023. C'est 100%, c'est le bio et la HVE. Est-ce que tu peux, pour commencer, juste nous expliquer la différence entre ces deux certifications et comment tu embarques effectivement tout le monde en utilisant ces deux pieds.
Alors le bio, je pense que tout le monde sait ce que c'est, l'agriculture biologique, hein, c'est le logo AB, ça existe depuis une quarantaine d'années. Grosso modo, l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui se passe des intrants chimiques, hein, donc les engrais ou la protection, les phytosanitaires si vous préférez, tout ce qui est protection des cultures. Donc c'est une agriculture alternative qui va essayer de finalement de trouver des moyens de pallier en fait l'absence de produits chimiques. Donc c'est une obligation de moyens en fait. La haute valeur environnementale, donc c'est le dernier en fait palier de pratiques agroécologiques qui vise en fait sur ce qui est non bio, donc ce qui est conventionnel. Et là, en fait, on va travailler sur l'ensemble de l'exploitation. Donc, quand une exploitation est certifiée haute valeur environnementale, c'est l'ensemble de ses productions, qu'elles soient végétales ou animales, qui sont regardées. Et on est sur la réduction, en fait, de la pression environnementale que peuvent exercer ces productions. Donc on va travailler sur quatre axes qui sont la gestion de l'eau, de l'irrigation, comment on réduit en fait ou comment on optimise en fait l'approvisionnement en eau, les engrais, donc l'objectif étant de réduire en fait l'apport des engrais chimiques, la protection des cultures. Donc là, si on n'est pas comme dans le bio où il y a zéro utilisation de phytosanitaires, on cherche à réduire le plus possible et trouver des techniques alternatives en fait aux protections des cultures. Et puis le dernier axe, c'est la biodiversité. Donc ça, ce sont quatre axes. Derrière, il y a entre 40 et 50 indicateurs de résultats et de moyens qu'on va suivre, qu'on va auditer, qu'on va certifier en fait. Alors pour préciser en fait, l'objectif qu'on s'est donné, c'est 100% de nos producteurs qui soient certifiés soit en agriculture biologique, soit sur le conventionnel en certification environnementale des exploitations, dont le troisième niveau est la haute valeur environnementale. Le bio et la haute valeur environnementale ne sont pas incompatibles. On a par exemple des producteurs bio qui souhaitent être HVE, haute valeur environnementale, en plus du bio, parce que vous avez compris, c'est comment je, au-delà de la production bio, comment je mesure et comment j'améliore en fait ma pression sur l'ensemble de l'exploitation. Donc ça c'était pour préciser. Parce qu'on est une coopérative, en fait, on s'est donné comme objectif de faire finalement bouger ou mettre en mouvement ou en dynamique collective l'ensemble de nos producteurs et pas uniquement une élite. Et ça, c'est vraiment le rôle d'une coopérative. L'agriculture, depuis toujours, elle s'est adaptée, elle s'est transformée. Et là, on voit bien en fait que les enjeux qui sont devant nous, qui sont des enjeux à la fois de changement climatique qui impactent directement en fait les producteurs, mais aussi de biodiversité, nécessite en fait un changement en fait des pratiques agricoles. Et donc, on a mis en place ça parce qu'on souhaite en fait vraiment accélérer, accompagner, motiver, soutenir en fait les agriculteurs qui sont dans cette démarche de progrès. Et on veut le faire de manière à la fois collective, mais en prenant en charge individuellement les producteurs, quel que soit leur niveau, leur point de départ, qu'ils soient très peu matures ou au contraire qu'ils soient très engagés. Et finalement, c'est pour ça que cette certification à différents niveaux, à paliers, permet finalement de faire monter tout le monde dans le train et de générer en fait cette boucle de dynamique collective.
Donc ça veut dire que effectivement, vous allez travailler à différents niveaux pour embarquer l'ensemble des adhérents et pas effectivement que quelques-uns. Est-ce que ça signifie bien qu'à la fin de l'année 2023, il n'y aura plus de légumes conventionnels chez Dossi, c'est-à-dire que ce sera un levier de différenciation portée par la marque avec de l'offre bio ou HVE niveau 1, 2, 3.
Alors,
comme
pas
tu
tout à fait,
tout
en fait. Pour être tout à fait précis, ce qui est bio est labellisé agriculture biologique. En agroécologie, on ne peut étiqueter en fait, sur le produit fini que ce qui est haute valeur environnementale, que le niveau 3. Donc on a lancé une gamme qui s'appelle Bien Cultivé, qui sont des produits qui sont labellisés haute valeur environnementale. Mais l'effort, on le fait sur l'ensemble de nos produits, sur l'ensemble de nos producteurs. C'est-à-dire que sur le conventionnel, on va dire que on va schématiser des chiffres à peu près simples. Le bio, c'est à peu près un peu moins de 10% des surfaces agricoles utiles. C'est un peu moins de 10% de la consommation française. Donc ça, c'est assez bien labellisé. C'est très labellisé, en fait. De l'autre côté, le conventionnel, il faut le faire progresser à travers un référentiel qui soit solide, qui soit externe, qui soit porté par le ministère de l'Agriculture, qui soit certifié avec des auditeurs externes. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est solide et quelque chose, effectivement, qui permet de faire progresser année après année nos producteurs dans des démarches de plus en plus vertueuses. Voilà, c'est ça qu'on a mis en place.
Ce qui a séduit également le jury, c'est que vous avez décidé en fait, d'expliquer très tôt et de manière transparente cette démarche à vos clients en lançant deux gammes spécifiques, les bio engagés et les bien cultivés. Et vous avez intégré une proposition supplémentaire qui propose aux consommateurs de participer finalement à cette démarche de transformation en ayant un principe de reversion, tu vas nous expliquer, de 5 centimes pour un fonds que vous avez créé pour favoriser cette transition écologique. Donc vous avez rendu visible dès le démarrage l'innovation ou votre démarche auprès des consommateurs. Et les retours qu'on a eus dans le dossier étaient plutôt encourageants, parce que je crois que vous avez récolté plus de 500 000 euros sur ce dispositif. Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement ?
Il était pour nous essentiel en fait, d'avoir une offre de produits finis qui reflète en fait, ces démarches. Pourquoi ? Parce que d'une part, on ne peut pas à la fois soutenir en fait les producteurs dans leurs efforts, et il y a de vrais efforts en fait, changer les pratiques culturales, ça demande une remise en cause de leurs pratiques, ça demande aussi des investissements, donc on ne peut pas leur demander ces efforts-là et pas le traduire en fait jusqu'au bout en termes d'offres de produits finis, à la fois économiquement, puisque ces efforts-là et ces efforts qui effectivement pèsent sur les comptes d'exploitation des exploitations, ils doivent être soutenus économiquement. Donc l'idée de lancer des gammes spécifiques, ça permet de valoriser d'un point de vue économique en fait ces offres-là. Et puis de l'autre côté, il y a aussi un enjeu de faire connaître, parce que finalement on dit beaucoup de choses sur l'agriculture, les agriculteurs. Il y a une forme de méconnaissance, en tout cas, de perte de connaissance, en fait, de ce qu'est le monde agricole, des transformations et de ses pratiques. Et il y avait aussi un besoin de reconnaissance, en fait, de nos producteurs. Donc, le rôle de la marque d'aussi qu'on signe marque d'agriculteur, c'est aussi d'offrir des produits qui sont le reflet, en toute transparence, des différentes agriculture, on appelle ça nous l'agriculture plurielle, donc on n'est pas que bio, on n'est pas que conventionnel, on essaye d'offrir un débouché et des produits finis à l'ensemble de nos producteurs, quel que soit leur mode de production, et on essaye avec chacun de les faire progresser, de les accompagner en fait dans cette transformation-là. Donc c'est le but de ces deux gammes-là qu'on a lancées. Un bio engagé et bien cultivé qui sont labellisés haute valeur environnementale. Et on a voulu associer en fait le consommateur, puisqu'on considère que dans ces enjeux-là, c'est des enjeux collectifs qui dépassent, je dirais, chacun individuellement. On a tous un rôle à jouer, qu'on soit producteur, transformateur, distributeur ou consommateur. On a un rôle à jouer finalement dans l'amélioration de nos pratiques et de modes de vie et donc de notre consommation. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce trait d'union-là. On considère que la marque d'Aussi est une marque trait d'union en tant que marque d'agriculteur, marque de coopérative. Et l'association qu'on a voulu faire concrètement, c'est mettre en place un système de reversion. C'est-à-dire que dans le prix consommateur, quand vous achetez un bocal d'une de ces deux gammes, il y a 5 centimes en fait, qui sont réservés, qui sont collectés, c'est-à-dire que en fonction des ventes, on va par le nombre d'unités fois 5 centimes, on va collecter en fait au bout d'une année en fait tous ces euros à la fin, et on les reverse intégralement aux producteurs qui ont approvisionné ces gammes-là. Donc comme tu l'as dit, en fait c'est alors 5 centimes, c'est à la fois C'est pas neutre hein, pour le consommateur, parce que ça veut dire que sinon, il pourrait, dans l'absolu, payer ses produits 5 centimes moins cher, mais on considère quand même que c'est un effort qui est mesuré et qui est raisonnable. Mais 5 centimes par plusieurs centaines de milliers, voire des millions d'unités de vente consommateurs, bah à la fin, ça fait, comme tu l'as dit, en deux ans et demi, un peu plus de deux ans et demi, 600 000 euros qu'on a reversé en complément de prêt à nos producteurs. Et on vise, d'ici la fin de l'année prochaine, à peu près d'avoir collecté et reversé 1 million d'euros. Donc c'est du complément de prix. Ça vient en plus des efforts qu'on peut faire sur le prix du légume, qu'on fait aussi sur l'assistance technique qu'on apporte à nos producteurs. Mais c'est une façon d'impliquer le consommateur, puisque finalement, tous autant que nous sommes, nous pouvons, à travers notre consommation aussi, choisir d'aider ou en tout cas de jouer un rôle utile dans cette transformation de filière.
Oui, c'est une façon d'aligner l'ensemble de la chaîne de valeur. Et effectivement, le consommateur est la première partie prenante, puisque avec chaque fois qu'il fait un choix, il vote pour un système ou un autre.
Exactement, c'est voter avec son caddie, comme on dit.
En lui donnant la possibilité de choisir en conscience, on peut faire bouger rapidement les choses. C'est un des leviers, effectivement, de la transformation. Alors, à travers ces gammes, vous avez aussi relancé des références de légumineuses. On avait noté ça, comme les pois chiches, les haricots verts, les flageolets, les lentilles. On sait que c'est intéressant sur le plan nutritionnel, mais ça aide aussi à réduire l'utilisation des engrais. Est-ce que ça fait partie de la stratégie globale que vous avez posée pour réussir à être HVE 3, rotation de culture, introduction de nouvelles références pour...
Plus précisément, effectivement, les légumes secs, en fait, qui sont les légumineuses qui sont sous le label HVE et donc bien cultivées, sont effectivement, on fait le lien, mais on vend aussi des légumes secs non HVE. Ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, c'est de se dire, à chaque fois que c'est possible, on produit en France, parce que on considère que ça fait partie des enjeux qu'on a, hein, qui est à la fois celui de la souveraineté agricole alimentaire, mais c'est aussi des gaz à effet de serre. Donc, pourquoi produire à 10 000 km quand on peut produire sur nos sols. Donc l'objectif, c'est à la fois de soutenir les filières françaises qui existent et puis de relancer un certain nombre de filières qui n'existaient pas. Je pense par exemple aux haricots rouges. Les haricots rouges viennent généralement du Canada ou des États-Unis. Donc on a remis en place en fait une filière de haricots rouges qui aujourd'hui ne couvre pas l'essentiel de nos besoins. Mais sur certaines gammes, par exemple de produits d'ossie, on a petit à petit remplacé les importations de haricots rouges par des filières françaises. On le fait aussi sur nos lentilles. Alors, c'est un travail de moyen long terme, en fait.
Parce qu'il y a le temps de la récolte.
Il faut embarquer des producteurs, il faut mettre en place des filières. On est sur des produits transformés industriellement, c'est-à-dire qu'il faut quand même que ça tienne le process industriel. Donc il faut qu'il y ait une qualité en fait qui soit aussi bonne que celle qu'on peut avoir sur d'autres variétés. Donc il y a des recherches variétales. Et puis si on prend la lentille par exemple, on a eu en 2021, on a eu une récolte catastrophique des lentilles françaises où je crois qu'on a dû faire moins de 20% de ce qui était prévu. Donc il faut qu'on accompagne aussi les producteurs entre les bonnes et les mauvaises années. Donc voilà, donc c'est un travail de longue haleine, mais en tant que coopérative, il nous a semblé que c'était indispensable de jouer ce rôle-là en fait.
Ça fait partie de l'accompagnement comme tu l'expliquais tout à l'heure. Alors on a parlé de bio et de HVE, c'est les deux grands piliers. Il y a eu beaucoup de débats ces dernières semaines sur le ralentissement des achats en bio. Est-ce que c'est un constat que vous partagez et quelle analyse tu en fais pour l'avenir, pour Dossi?
Oui, alors moi, je partage pas le pessimisme qu'on entend un petit peu partout. Je pense que le bio, effectivement, si on regarde, le bio a reculé, est en recul cette année. Il y a plusieurs causes, en fait. Il y a effectivement la crise actuelle, la crise de pouvoir d'achat, qui fait qu'effectivement, les produits plus valorisés sont moins accessibles. Donc ça, c'est une vérité et qui restera le temps qu'on sera sur ces niveaux d'inflation. Ça, c'est vrai, mais c'est vrai pour le bio, mais c'est vrai sur l'ensemble des produits. Il y a un phénomène quand même qui est conjoncturel, qui est effectivement les deux années Covid ont quand même boosté les ventes. Donc il est normal qu'il y ait un peu de repli en 2022. Si je prends les légumes en conserve, on vend plus en 2022 de légumes bio qu'en 2019. Donc effectivement, il y a un recul. Le marché est à moins 7, par exemple, sur les légumes bio en conserve. Moins 7, mais on a énormément progressé ces dernières années. Donc c'est pas si dramatique que ça.
Donc tu dis qu'il ne faut pas regarder le court terme, il faut regarder avec un peu plus de longueur.
Après, pour moi, il y a eu ce qui est un peu plus structurel, ça a été un brouillage de l'image du bio. C'est-à-dire que du bio originel, en fait, qui était vraiment un mode alternatif de production et consommation, il y a eu ces 5-10 dernières années un effet d'opportunisme où beaucoup d'intervenants, je parle d'industriels, sont venus sur du bio uniquement par des aspects, je dirais, d'opportunisme, parce que c'était extrêmement... en termes de croissance, extrêmement bon, porté par la croissance du bio et puis très valorisé. Et finalement, on a vu des intervenants, des industriels, des marques qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la démarche, qui sont venus par effet d'aubaine. Et je pense que d'une certaine façon, les consommateurs attachés au bio ont un peu perdu les repères. Donc pour moi, les fondamentaux restent toujours bons, en fait, hein, si on consomme du bio. Et on est tous plus ou moins consommateurs de bio. C'est aussi ce qui s'est passé ces 10 dernières années. C'est que finalement, tout le monde s'est mis à acheter un petit peu, beaucoup, souvent, de temps en temps, du bio. Et donc, finalement, tout le monde s'est mis à en consommer. Et si les gens consomment du bio, c'est grosso modo, c'est parce que je pense que c'est bon pour moi et parce que je pense que c'est bon pour la planète. Donc, ces enjeux-là, malheureusement, je dirais, ils vont rester. Mmh. Donc, les fondamentaux sont bons. Il faut simplement remettre le bio dans ce qu'il était, c'est-à-dire une vraie démarche de fond. C'est pas uniquement la vente de bio qui est importante, c'est aussi la production. C'est pour ça que ce qui est plus inquiétant, en fait, hein, dans ce tassement du bio, c'est tous les producteurs qui ont été embarqués dans le développement du bio, qu'il faut pas laisser tomber sur le bord de la route, parce que les ventes baissent là sur une année de moins 5, moins 10. Mmh. Au contraire, c'est la responsabilité de filière. Quand un agriculteur se lance dans le bio ou décide de se convertir en bio, il le fait pour toute une vie, hein, grosso modo. Donc il faut raisonner long terme, il faut raisonner filière. Et le rôle de l'industriel, le rôle d'une marque, c'est d'accompagner les producteurs qui ont fait ce choix-là jusqu'au bout, les bonnes comme les mauvaises années, et de le faire dans la durée.
Et du coup, d'expliquer aux consommateurs quand il y a des variations et de pouvoir expliquer la différence. Alors, dans cet univers du maraîchage, qui est un univers... où il y a beaucoup d'innovations, il y a des expériences intéressantes, notamment en permaculture. Est-ce que c'est des sujets que vous regardez aussi ? Alors, c'est plutôt à l'échelle de petites exploitations. Est-ce que c'est des sujets que vous regardez aussi ? Est-ce que vous avez des expérimentations ? Est-ce que ça fait partie potentiellement des chantiers que vous souhaitez développer pour le futur ? Et derrière la permaculture, il y a une idée sous-jacente qui est l'agriculture régénératrice, celle qui permet de rendre davantage au sol qu'on ne lui prend. C'est, pour nos auditeurs, c'est un concept qui a été popularisé par un film qui s'appelle Kiss the Ground, que je vous conseille de regarder. C'est un principe assez basique, finalement, qui a été utilisé par l'humanité pendant 2000 ans, avant la parenthèse des pesticides. J'imagine que ça fait partie des sujets que vous regardez aussi. Est-ce que tu peux nous en donner quelques perspectives.
Alors oui, tu l'as dit, on n'est pas à la même échelle, on ne travaille pas à la même échelle. On est plus sur des quantités de masse, que ce soit en production ou en transformation, et distribution et vente. Pour autant, effectivement, je dirais que toute initiative est bonne. Et on a besoin, en fait, de pionniers, de gens qui vont finalement à petite échelle expérimenter, trouver finalement... l'enjeu finalement de l'agroécologie, c'est comment on réduit la pression sur l'environnement. Donc tout ce qui est technique alternative, qu'elle soit technique, qu'elle soit variétale, qu'elle soit dans les modes de culture, etc., etc., elles sont bonnes. Donc nous, on est en expérimentation permanente. On s'inspire de ce qui peut être fait. On le fait à la fois dans l'accompagnement technique de nos producteurs, mais les producteurs le font eux-mêmes. Hein. C'est ce qu'on appelle, nous, les rencontres en bout de champ. Hein. C'est-à-dire que eux-mêmes, en fait, que ce soit un agriculteur bio avec un agriculteur conventionnel, ils vont échanger les différentes pratiques qu'ils peuvent avoir. On a aujourd'hui, sur des légumes bio, on a des rendements, en fait, à l'hectare qui sont très proches du conventionnel. Donc ça aussi, c'est super intéressant.
C'est récent ou...
Alors ça se fait progressivement, effectivement. C'est à la fois voilà, il y a une expertise qui se crée et je dirais que si on regarde aujourd'hui les producteurs, on a des gens passionnés, en fait, parce que finalement un agriculteur c'est un métier de vocation, c'est un métier de passion. Généralement, c'est pas un métier où vous allez rouler sur l'or, c'est un métier où vous allez pas compter vos jours, vos nuits et vos semaines. Donc finalement, on a des gens qui sont passionnés par leur métier et qui cherchent toujours à mieux faire. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que l'agriculture a toujours été en transformation, elle a toujours évolué, elle continue d'évoluer. Et ce qu'il faut, c'est effectivement porter une agriculture plurielle, parce qu'il y a autant de modèles finalement que d'exploitation. Et il faut aider chacun finalement à progresser, à être dans cette dynamique de progrès, d'expérimentation et de modification de ses pratiques, en visant, comme je le répète, effectivement une pression moindre en fait sur l'environnement.
Très clair. Alors, pour pouvoir valoriser ces différences ou ces engagements, il faut effectivement l'expliquer aux consommateurs. On en a parlé un peu tout à l'heure. Vous êtes également engagé dans un collectif de marques qui demande aux législateurs de leur imposer de dire la vérité. Ça s'appelle En Vérité. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi tu as embarqué d'aussi? Je crois que ça a été une des premières marques à rentrer dans le dispositif il y a un an. Qu'est-ce que ça implique et sur quoi ça va déboucher?
Oui, alors le constat, il a été fait par Sébastien Loctin, hein, qui a été le fondateur en fait, du collectif. Donc le collectif, c'est une association qui regroupe aujourd'hui une soixantaine de marques. Et je dirais que tous les jours, il y a des marques qui nous rejoignent. Le constat de départ, c'est de dire, finalement, on est dans quelque chose qui est très paradoxal. Et en fait, on a un renversement des valeurs. C'est-à-dire que quand vous êtes une marque et que vous décidez de finalement d'avoir des pratiques plus responsables ou plus vertueuses, finalement, c'est des efforts, c'est une prise de risque. Et vous êtes toujours obligé de vous justifier, en fait. De l'autre côté, si vous ne faites pas ces efforts-là, finalement, vous n'avez pas à vous justifier. Et la première des justifications, c'est ce qu'il y a sur l'emballage. C'est l'étiquetage, en fait. Donc, je vais prendre des exemples très concrets. La demande, finalement, des Français, mais c'est une demande légitime, c'est ce que je mange, comment c'est produit, qu'est-ce qu'il y a dedans et quel bénéfice ça m'apporte. Et d'où ça vient. Et c'est des questions assez simples auxquelles il faudrait pouvoir répondre de manière aussi assez simple. Donc, on a fait le choix, nous, comme d'autres marques, de dire, on est dans une application volontaire d'un certain nombre de principes qui sont des principes de transparence, qui sont dire, on affiche sur nos produits l'origine des produits. Quand c'est français, on le dit. Mais quand c'est pas français, on le dit aussi. Voilà, c'est la symétrie des origines. Voilà, une question d'honnêteté. On explique aussi les modes d'agriculture. Donc, j'ai parlé du bio, j'ai parlé de la certification environnementale de la HVE. Donc, on apporte cette information-là. On a mis en place, nous, le Nutri-Score. Sur l'ensemble de nos gammes, on affiche le Nutri-Score. Et puis, demain, ça va arriver, puisque c'est en cours d'élaboration, l'affichage environnemental, qui est finalement l'impact environnemental que peuvent avoir chaque produit. Donc, on considère qu'il faut que tout le monde joue avec les mêmes règles. C'est que finalement, ces questions qui sont simples doivent avoir des réponses simples et que toutes les marques devraient être en mesure d'avoir la même transparence vis-à-vis des consommateurs. Charge après au consommateur de faire ses choix, ses propres choix, mais en tout cas, lui apporter l'éclairage et l'information de manière objective et de manière immédiate.
Pour qu'ils puissent choisir en conscience.
C'est exactement.
Ce que j'avais effectivement compris. Alors, dernière question avant de passer aux interactions avec les étudiants. Est-ce que la reconnaissance que vous avez eue sur la plateforme, elle a changé des choses? Qu'est-ce que ça permet, ça autorise pour la suite? Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce point?
La reconnaissance, c'est toujours très positif. D'abord en interne, parce que, encore une fois, ça demande. C'est des projets en fait qu'on mène sur plusieurs années. C'est, je l'ai dit, des efforts, des prises de risques. C'est pas uniquement les équipes marketing, c'est aussi les équipes industrielles, les équipes amont, les équipes qualité, les équipes commerciales. Donc finalement, on a mobilisé beaucoup de gens en fait sur ces différents projets qui sont aujourd'hui matérialisés par ces produits. Donc avoir la reconnaissance pour un marketing responsable, je pense que c'est quelque chose qui est important, parce que ça donne un feedback, ça donne un retour positif en fait aux gens qui se sont investis en interne. Et puis vis-à-vis de l'extérieur, voilà, ça permet aussi d'éclairer en fait ce qu'on fait. Ça donne aussi une vitrine et un coup de projecteur sur ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Donc c'est jamais... je pense que pour nous, enfin en tout cas pour moi, la communication, elle vient après, elle vient en dernier lieu. C'est-à-dire qu'on fait les choses et après on communique, et pas l'inverse. C'est vrai sur le marketing, c'est vrai sur la RSE, mais pour autant, effectivement, si on peut expliquer, je pense que dans les enjeux dont on a parlé, que ce soit sur le bio, sur l'agroécologie, sur l'environnement, on a besoin en fait d'apporter de la pédagogie, de l'information, de l'éducation. Je crois que c'est essentiel. On vit dans un monde qui est complexe. On a tous un rôle à jouer, à la fois sur la demande en tant que citoyen, en tant que consommateur, dans nos façons de consommer, dans nos dans nos habitudes, dans nos modes de vie. On peut tous faire des efforts. Et puis, en tant que professionnel, quelles que soient les entreprises dans lesquelles on travaille, quelle que soit la fonction qu'on occupe, on peut aussi jouer un rôle sur l'offre, je dirais. Donc voilà, cette notion de pédagogie, de culture, d'information, elle est essentielle si on veut progresser tous ensemble.
Une petite question supplémentaire, quel conseil tu donnerais, tu as commencé à l'évoquer, aux entreprises qui souhaitent s'engager dans la voie de l'offre responsable, sur la base de ton expérience, et puis aux étudiants qui sont là, qu'est-ce que tu as envie de partager comme bonne pratique ou bonnes idées?
Je pense que, sans aucune naïveté de ma part, le premier conseil, c'est la sincérité. C'est-à-dire que voilà, c'est indispensable. Il faut faire les choses de façon sincère. Il n'y a pas d'entreprise ou d'organisation parfaite. Voilà, on a tous des choses à faire bouger, des choses à améliorer. On a tous des points faibles. Il faut les assumer. Maintenant, ce qui est important, c'est encore une fois, c'est de se mettre en mouvement, de se mettre dans une dynamique de progrès et d'identifier là où on peut faire bouger les choses et de se mettre des plans d'action. Ça peut être des plans d'action court terme, et puis ça peut être des plans d'action moyen, long terme. Ça peut être très long. Hein. Quand on parle d'agriculture, on parle de plusieurs années, voire de dizaines d'années, si on veut changer les pratiques. Mais en tout cas, il faut être sincère dans ce qu'on fait. La deuxième, c'est être dans la durée. Parce qu'encore une fois, les enjeux qui sont devant nous sont des enjeux qui sont des enjeux long terme. Et si on n'inscrit pas en fait nos actions dans une feuille de route dans la durée, on va pas produire grand-chose comme en termes de résultats. Donc, il faut vraiment s'inscrire dans un temps long. C'est vrai pour ce qui est de la commercialisation, pour l'industrie et pour l'agriculture. Le troisième conseil, c'est, et là pour le coup je parle de l'agroalimentaire, c'est de raisonner en filière. Hein, puisque on a trop longtemps déconnecté l'alimentation de l'agriculture. Il faut reconnecter l'agriculture à l'alimentation parce que les enjeux sont absolument liés. Encore une fois, c'est une question d'offre et de demande. Et si on veut vraiment agir de façon concrète, durable et significative, il faut vraiment raisonner de la fourche à la fourchette, du champ à l'assiette. Ça, c'est absolument indispensable. Et il faut dépasser les clivages, les intérêts, égoïstes de chacun des maillons de la chaîne. Oui. Et puis, le quatrième conseil, c'est d'être concret. Voilà. Parce que finalement, tout ça ne vaut que si finalement, on crée du résultat, on a un impact. Alors, ça peut être des petits impacts. Encore une fois, c'est l'effet papillon. Hein, voilà, et là, je parle au niveau consommateur. Hein, on peut faire tous des petits gestes, mais si on est des millions ou des milliards à le faire, on va dans la bonne direction. Bah, c'est la même chose côté industriel ou côté agriculture. Voilà, si en tout cas, il faut mesurer, hein, il faut se fixer des objectifs, des objectifs mesurables, et il faut les jalonner, et il faut vraiment aller au-delà des intentions, des incantations, des engagements. Parce que prendre des engagements, c'est facile, hein, surtout si on les prend à 30 ans, puisqu'on ne sera plus là pour voir si on les a tenus ou pas. Donc, il est important de jalonner sur différents horizons de temps et de mettre des indicateurs et d'être transparent sur la réalisation, la non-réalisation et les plans d'action qui sont associés.
Alors, dans cet esprit-là, est-ce que tu pourrais nous recommander une bonne pratique à surveiller pour 2023 qui pourrait prendre la suite de dossiers? Alors, pas forcément dans l'univers alimentaire, si tu as quelqu'un de cet univers, ça nous intéresse, mais ça peut être ailleurs. On est très preneurs de ce regard expert.
Alors, je ne sais pas si je suis expert. Hein. Je vais pas me donner ce titre-là. Qu'est-ce qui m'inspire? Je pense que ce qu'il faut regarder, c'est les marques et les acteurs, ou les marques ou les acteurs qui vont apporter une dimension collective, en fait. Je pense que c'est ça le critère, finalement, pour voir ce qui fait vraiment du sens et de la responsabilité. C'est au-delà de la pratique de la marque ou de l'entreprise associée, c'est qu'est-ce qu'elle fait qui la dépasse, en tout cas, quels sont les enjeux collectifs pour lesquels elle va contribuer, en fait, à apporter des solutions. Alors, je ne vais pas parler d'alimentaire. Alors, la marque que je vais vous sortir, je ne vais rien vous apprendre, hein, mais je trouve qu'il y a une marque qui est assez intéressante, c'est Patagonia. Parce que finalement, elle a complètement été à l'inverse finalement de cette industrie-là. Elle a vraiment changé les paradigmes, donc elle a pris des risques. Elle l'a fait dans la durée, puisque vous avez vu son fondateur depuis les années 70 jusqu'à maintenant, en fait, a vraiment dans la durée tenu cette feuille de route-là. Et il l'a fait avec des choses concrètes. Et je trouve qu'il l'a fait de manière... avec succès, en fait. Donc, ça montre bien qu'on peut réussir dans le business tout en adressant, en fait, des causes ou des enjeux qui sont au-delà du business et qu'on peut réussir. Voilà. Et si on prend... C'est vraiment le contre-pied de la fast fashion, en fait. Hein. Il y a un chiffre, moi, qui m'a frappé. Alors, je pense qu'il est vrai pour... c'est le chiffre au Royaume-Uni. Hein. Je pense que... Je ne sais pas si vous le savez, mais tous les ans, il y a 50 000 tonnes de vêtements usagés qui partent à la poubelle. Donc, c'est le Royaume-Uni, mais je pense que si on fait le tour en France ou nos économies occidentales, donc, on revient finalement à cette conscience, c'est de se dire, est-ce qu'on a besoin de changer de vêtements 3 fois par semaine? Est-ce qu'on a besoin de jeter à la poubelle sans savoir si ça va être recyclé et comment? Voilà, donc, comment on fait chacun des petits efforts en tant que consommateur, en tant que citoyen, mais aussi en tant que marque, sur mon modèle de production, sur mon business model. Et je trouve que voilà, c'est pour ça que je trouve que cette marque-là est intéressante.
En toute transparence.
Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir 4 étudiants de la chaire Grande Consommation de l'ESSEC, Marie, Clément, Géraud et Emma. Alors, à tous les 4, je voudrais savoir ce qui vous a particulièrement marqué dans la présentation de Nicolas. Si vous considérez que cet exercice de transparence a été réussi, et pourquoi, et quelles questions vous avez envie de lui poser pour enrichir cet entretien. Qui veut commencer? Donc c'est Marie Salzer qui commence. Bonjour Marie.
Bonjour, je vous remercie pour votre intervention et pour votre transparence. Comme vous l'avez expliqué, vous avez développé 2 gammes de produits avec une identité de marque très forte, qui sont bio-engagés et bien cultivés. Et ma question, c'est, avez-vous pu observer une fidélisation de vos clients sur cette marque-là? Et est-ce que cet engagement a renforcé votre marque sur vos autres gammes de produits?
Oui, bonne question. Alors, on suit évidemment les indicateurs de vente à travers les panels conso et distributeurs. On est au rendez-vous, en fait, des objectifs qu'on s'était fixés, c'est-à-dire à la fois en termes de volume et de rotation. Donc... malgré ce qu'on a pu dire effectivement sur le ralentissement du bio, la gamme bio se porte bien, en tout cas elle est conforme. On n'a pas vu de fléchissement récent. Alors on surveille ça bien évidemment parce que la conjoncture inflationniste aura des effets quand même durables sur le mode d'achat. Mais pour l'instant effectivement elle fonctionne. On a plutôt des bonnes rotations et c'est ce qu'on souhaite. Hein. On souhaite avoir les meilleures rotations du marché sur les offres qu'on peut avoir. Et sur la marque bien cultivée, c'est la même chose sur la gamme. On est au rendez-vous des prévisions qu'on avait faites. Et c'est d'autant plus important que dans notre filière en fait, agricole, on ne produit en production agricole que ce qu'on est capable de vendre. Donc on ne sème, on cultive et on ne récolte et on ne transforme industriellement que ce qu'on va vendre. Donc de pouvoir effectivement prévoir en fait, sur plusieurs années en termes de récolte ce qu'on va vendre, c'est un point qui est fondamental parce que derrière, l'objectif, c'est de ne pas laisser un légume dans les champs parce qu'on n'aura pas réussi à le transformer, à le valoriser. Donc on est plutôt en ligne avec ces 2 gammes-là. Donc ça veut dire qu'elles ont rencontré leur public, je dirais, leur demande consommateur. Voilà, maintenant on adapte, en fait, on change les formats, on change les légumes, on adapte au fur et à mesure en fait, l'offre. On fait des ajustements, il y a des références qui tournent plus ou moins bien, on les remplace. Et voilà, on fait ce travail de marketing au quotidien qui est d'adapter l'offre à la demande. Et là, ta deuxième partie de question, c'était sur...
Est-ce que ça a rejailli sur la marque d'Ossio?
Oui,
en général,
alors c'est l'intérêt aussi. Hein. On a voulu, quand on a relancé en fait, le positionnement de cette marque, on a voulu le... signer marque d'agriculteur, marque de coopérative, pour faire comprendre que derrière, il y avait des agriculteurs et tous les enjeux liés entre l'agriculture et l'alimentation. Faire de cette marque un trait d'union et également prendre des engagements dont on a parlé et les matérialiser. Donc ces gammes-là, tu as raison, elles ont un effet de halo. Qu'on mesure aussi, hein, puisqu'on fait des études régulières d'images sur la marque et les produits. Et on mesure qu'effectivement, le positionnement de la marque a bougé chez un certain nombre de consommateurs, pas tous, voilà, parce que certains sont plus ou moins sensibles, certains ont été exposés. Hein, on est aussi une petite marque hein, dans le monde des produits de grande consommation. Hein, voilà, donc on ne va pas non plus se faire plus grand qu'on est. Mais voilà, on a réussi à faire bouger les lignes. Et en tout cas, vis-à-vis de la cible en fait, de consommateurs, en fait, qui souhaitent en fait donner un sens à leur consommation. On a vu que ça avait eu une incidence et que ça avait été repéré et compris par les consommateurs. Donc je dirais que ces deux gammes-là jouent aussi un rôle bénéfique sur l'ensemble de la marque.
C'est parfait, merci.
Alors Emma Courreau, tu avais aussi une question.
Merci pour cet échange intéressant. Et j'aime beaucoup l'ambition de Dossi de nous reconnecter au vivant, à la culture, en redirigeant les efforts vers le travail de l'agriculteur. Et ma question porte justement sur cela. C'est-à-dire qu'entre la prise en main des nouvelles machines, les tâches administratives, la négociation des prix, le travail de l'agriculteur ne se résume plus seulement à la culture et à l'élevage. Et je voulais savoir, est-ce que Dossi s'engage à alléger la charge mentale des agriculteurs? Et si oui, comment est-ce que vous le faites concrètement?
Oui, c'est un vrai point. Aujourd'hui, l'agriculteur n'est pas seulement agriculteur, c'est-à-dire un spécialiste, voire un expert en fait, des différents modes de production agricole, hein, puisque généralement en France, on est sur de la polyculture-élevage, en tout cas en Bretagne. Donc un exploitant typique, un adhérent chez nous, il fait plusieurs cultures végétales, ça peut être des céréales, ça peut être des légumes, et une ou plusieurs productions animales. Donc on a vraiment des multispécialistes, mais aujourd'hui, effectivement, la taille des exploitations fait qu'effectivement, un exploitant agricole, aujourd'hui, c'est plutôt un patron de TPE, en fait. Il a 1, 2, 3 salariés en fonction de la taille des exploitations. Et donc, finalement, il a, et tu as raison, il doit gérer, en plus de la production agricole qui, quand on est sur l'élevage, occupe toute l'année, hein, 7 jours sur 7, 52 semaines sur 52. Il doit gérer aussi toute la partie administrative, gestion de sa propre exploitation, qui est sa propre entreprise. Et c'est vrai que c'est en tant que coopérative, ça, c'est un point important. C'est-à-dire que le rôle d'une coopérative, c'est aussi d'apporter un certain nombre de services en fait, à ses adhérents. Et on veille effectivement à essayer de réduire, en tout cas à ne pas faire inflater en fait, la charge administrative. Puisqu'effectivement, on a quand même... Alors, on a la chance finalement d'être en France dans une agriculture, une industrie agroalimentaire, mais c'est vrai pour toute la France, qui est extrêmement réglementée. Donc ça nous permet finalement d'avoir une sécurité alimentaire qui n'est pas totale, mais qui est quand même très, très bonne. Pour autant, on multiplie en fait, les référentiels, on multiplie finalement toute cette charge administrative. Et tu as raison, c'est quelque chose de lourd en fait, pour les agriculteurs. Donc ça, c'est dans notre rôle de coopérative, aux différents niveaux auxquels on s'adresse vis-à-vis de nos coopérateurs, on veille aussi effectivement à réduire en fait cette charge-là qui vient se rajouter en fait au travail de tous les jours.
Merci.
Clément Cazot, tu avais une question également.
Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, je vais continuer dans la lignée de Marie, mais vous avez parlé donc des gammes bio engagées et bien cultivées avec leurs spécificités, mais au travers du brouillon des différents labels qualité, je voulais savoir quelle était la stratégie adoptée par Dossi pour permettre aux consommateurs de différencier et de prendre la mesure du label bio, mais surtout haute valeur environnementale par rapport à des marques en production conventionnelle.
Alors, on est... c'est une bonne question, évidemment. Pour ce qui est du groupe coopératif, hein, on dit qu'on souhaite soutenir l'agriculture plurielle. Finalement, parce que quand on est une coopérative, on se doit effectivement d'apporter finalement la pérennité, un débouché économique à tous nos producteurs. Donc on n'est pas en train d'opposer les agricultures entre elles. On essaye plutôt de trouver des débouchés en fait à chacune des productions, tout en assurant en fait leur évolution, leur transformation est positive. Donc on a c'est pour ça qu'on a choisi la certification, parce que la certification, elle est externe, elle est solide, elle est rigoureuse, elle est auditée, elle est certifiée de manière externe. On l'a sur le label bio, avec le logo AB, donc ça c'est clairement reconnu, puisque c'est sur le packaging, et puis ça existe depuis 40 ans. La haute valeur environnementale peut être aussi, enfin elle peut être sur le packaging, sur le produit fini. Là, pour le coup, le label est récent, en fait, et peu connu. Donc ça demande aussi de la pédagogie, de l'explication, expliquer ce qu'il y a derrière, comment c'est fait. Voilà, donc ça demande aussi un investissement. Donc ça, c'est notre rôle en tant que marque, de mettre des moyens marketing, de communication pour expliquer au plus grand public, au-delà de ce qu'on peut faire sur le packaging. Et puis surtout, ce qui est le reste, c'est-à-dire le conventionnel certifié, puisque l'objectif, vous avez compris, l'année prochaine, c'est que 100% soit certifié à différents niveaux, que là, on ne peut pas en fait revendiquer sur le packaging, puisqu'on n'a pas le droit, et c'est normal, de mettre un logo. On a quand même ce travail de fond. Et on essaye à travers, alors pas une pub TV, parce qu'en 15 ou 30 secondes, vous n'avez pas le temps d'expliquer tout ça, mais à travers les autres modes de communication, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le site de la marque, que ce soit les relations presse, etc., etc. On essaye de faire comprendre qu'au-delà du bio, au-delà de la HVE, on a tout un travail en fait, de certification qui est sur l'ensemble de nos productions, l'ensemble de nos producteurs, et qu'on est dans une dynamique collective. Donc voilà, c'est ce qui nécessite un peu, au-delà de la communication, un peu plus de pédagogie. Voilà, c'est plus long, c'est plus difficile. Il faut arriver à émerger. Et c'est pour ça que cette plateforme de Pour réussir un marketing responsable est intéressante, parce que ça donne aussi une vitrine à un certain nombre de publics sur ce qu'on peut faire.
Alors, cher Nicolas, tu as une dernière question. Il y a beaucoup de succès aujourd'hui dans les questions. Géraud Nolorg, tu voulais poser une ultime question en guise de conclusion.
Ouais, tout à fait, et aussi d'ouverture. Merci pour toutes ces précisions et pour toute la transparence que vous nous avez fait part ce matin. Et merci aussi pour cette vision que vous partagez sur l'intérêt d'intégration des filières, qui sera sans doute moteur dans les prochaines années d'un renouveau des filières et d'amélioration continue. Vous parliez tout à l'heure des actions à long terme mises en place par votre entreprise, d'engagement dans le temps long. Ma question est la suivante. À quoi ressemblera la marque Dossi en termes d'engagement à l'horizon 2040 au vu des enjeux actuels ?
Bonne question. Je pense que ce qui est... On travaille actuellement sur la feuille de route RSE, de manière... mais là, on travaille dans la détermination, l'écriture de la feuille de route. Alors, quand je dis RSE, c'est pas de la marque, hein, c'est de l'ensemble de la filière, vous l'avez compris, parce que sinon, ça aurait pas beaucoup de sens de s'arrêter à la marque. Donc, la marque est un des maillons de cette filière-là. On travaille vraiment sur la feuille de route et les plans d'action concrets qu'on est en train de mettre en œuvre. Je pense que si on regarde les enjeux, en fait, qui sont devant nous, c'est quoi ? C'est travailler, en fait, à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et si on regarde l'industrie agroalimentaire, généralement, c'est le scope production agricole en fait, qui génère le plus de gaz à effet de serre. Donc, c'est comment on fait évoluer les pratiques agricoles pour... Alors, l'agriculture est à la fois un des premiers vecteurs, c'est pas le premier, hein, d'émissions de gaz à effet de serre, mais on a cette chance, c'est que c'est aussi une des seules solutions, en tout cas, immédiatement en fait, activables. La séquestration du carbone dans le sol, l'agroforesterie, etc. etc. Donc, il y a un certain nombre... C'est aussi la chance, hein, c'est qu'on peut aussi... avoir une action positive vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième, c'est la biodiversité. Parce que là aussi, l'impact de l'agriculture, que ce soit, si on se met à l'échelle mondiale, en fait, la déforestation, que ce soit l'utilisation des pesticides, etc., etc. Voilà, il y a un impact certain sur la biodiversité. Donc comment on réduit et comment on favorise en fait, la biodiversité ? Le troisième, c'est celui des emballages. Voilà, on voit la problématique du plastique, des effets de pollution. Là, ce n'est pas des effets de gaz à effet de serre, c'est des effets de pollution et des impacts sur la nature, mais également sur la santé. Donc ça, c'est un enjeu qui est très important. Et puis, au-delà de ça, nous, on est une marque de légumes, de plein champ, principalement français à plus de 90%. On a un rôle à jouer dans l'alimentation. Il faut... On sait tous qu'il va falloir baisser notre consommation de produits carnés pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons de santé. On n'a pas besoin de manger de la viande trois fois par jour, hein, ni sept fois par semaine, sept jours sur sept. Donc, une alimentation équilibrée, variée. Et donc, on a un rôle à jouer à proposer finalement des légumes, une alimentation plutôt végétale, en fait, qui sera bonne pour les... Donc ça, c'est notre rôle aussi, c'est de s'adapter, d'avoir des produits, des recettes qui correspondent finalement au mode de vie, aux attentes de consommation des consommateurs. Et puis, on a parlé de transparence là ce matin. Je pense que On a des consommateurs, et ils le seront de plus en plus, qui seront informés, avertis. Je pense qu'il faut l'accès à la donnée va permettre aussi de mieux éclairer les informations produits et donc les choix que peuvent faire les consommateurs vers une consommation et un mode de vie plus responsable. Donc ça, c'est aussi notre rôle, hein, c'est de continuer en fait dans cette démarche qu'on a mise de transparence, d'affichage, d'explication. Je pense que c'est essentiel si on veut. Si on veut tous jouer un rôle positif, encore faut-il qu'on soit éclairé, informé et qu'on puisse décider en toute conscience. Je peux décider de manger des choses qui... je peux décider de manger un bon steak et j'aime ça, mais je dois savoir finalement quelles conséquences ça a et je dois être éclairé sur mes choix en fait. Et c'est la même chose pour l'ensemble des produits.
En toute transparence.
Merci à vous quatre pour ces questions et ces échanges. Merci à Nicolas pour s'être prêté au jeu. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. En toute transparence, le podcast de l'ADEME, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast et sur sogood.fr. N'hésitez pas à en parler autour de vous s'il vous a plu, à le liker, le partager, le commenter. Merci également à l'Union des marques, à l'ILEC, l'ADETEM, Citeo et Audencia. Et à très vite pour de nouveaux épisodes.
En toute transparence.
So Good Radio présente le numéro 11 du magazine So Good, avec au programme une question sacrément importante.
L'humour sauvera-t-il le monde ?
Spoiler, oui.
Et comment ?
La preuve en 25 pages et autant d'histoires. De Pierre Dac et ses interventions loufoques sur Radio Londres au ministre du numérique taïwanais qui bat les fake news à coups de chaton en passant par le roi des canulars téléphoniques anti-Bachar al-Assad.
Et c'est tout ? Juste de l'humour ?
Non, dans ce numéro, vous trouverez aussi des détenus en fin de peine en week-end chez l'habitant.
Ou une méthode révolutionnaire pour stocker la data dans les plantes vertes.
So Good, en vente partout chez vos marchands de presse.